Campus, il est 6h.
Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que vous avez, pour le public, trouvé votre bonheur en termes de formation ou emploi. Et pour les partenaires, j'espère que vous allez trouver aussi votre bonheur en termes de candidats. Bon courage pour ce forum.
Le forum emploi et formation s'est déroulé le 22 mai à Marny-les-Compiègne. Organisé par le centre EPI des France Travail, cet événement est l'occasion pour les jeunes de rencontrer des entreprises dans la région Hauts-de-France. Nous avons rencontré Marine Ribeiro, chargée de relations entreprises à l'EPI de Marny-les-Compiègne, deux jeunes de cet organisme et différentes entreprises qui reviennent sur les défis de l'emploi dans les Hauts-de-France.
Bonjour, donc moi c'est Marine Ribeiro, je suis chargée de relations entreprises au centre EPI de Marny-les-Compiègne.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est l'EPI ?
L'EPID, c'est un établissement public pour l'insertion dans l'emploi des jeunes. Donc on accueille des jeunes qui ont entre 17 et 25 ans, sortis du cursus scolaire, et qui viennent à l'EPID pour leur insertion professionnelle principalement, et on travaille tous les axes à côté.
Et donc vous avez organisé ce forum aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans quel but, comment ça s'est organisé ?
Donc c'est un forum emploi et formation. On a aujourd'hui plus de 100 entreprises et organismes de formation, agences de travail temporaire qui sont présents. Le but, c'est voilà, de faire venir des personnes qui cherchent de l'emploi, de la formation, du travail de façon générale. On a nos jeunes ici, on a 180 jeunes du coup qui sont présents au sein du forum. Et puis après, c'est ouvert à tout public.
Et vous proposez quoi du coup comme formation, comme projet pour les jeunes ?
Donc là, on a plus de 100 exposants qui sont présents avec tout secteur d'activité qui sont représentés. Ça passe du commerce, de l'artisanat, de l'industrie, de la logistique, du BTP. Voilà, on a vraiment tous les secteurs d'activité qui sont représentés aujourd'hui.
C'est important pour vous d'offrir une multitude de disciplines pour les jeunes ?
Oui, totalement. Le but, c'est aussi de leur faire découvrir des secteurs d'activité qu'ils ne connaissent pas forcément et du coup, leur ouvrir leur champ de vision vers aussi des milieux qu'ils ne connaissent pas.
Lina et Wesley sont deux jeunes qui bénéficient de l'aide du centre EPI de Marny-les-Compiègne. Ils nous racontent leur expérience.
Je m'appelle Lina, j'ai 20 ans. Je suis au centre de Marny-les-Compiègne, le centre EPI. Et actuellement, j'ai terminé mon parcours de 8 mois. Je rentre en formation, du coup, marketing digital avec l'obtention de mon code de la route. Au début, quand je suis arrivée, j'avais pas l'habitude de tout ça. C'était un rythme de vie assez réglé avec énormément de... entre guillemets règles, mais en fait une fois qu'on s'est habitué, tout se passe bien. Ils nous ont fait passer le PSC1, donc la formation secouriste. Ensuite, j'ai passé mon code de la route 3 fois, gratuitement, grâce à eux, je l'ai eu. J'ai pu commencer mes heures de conduite et là elles sont bientôt terminées. J'ai pu trouver ma formation qui a été financée du coup par l'EPI des France Travail. Donc, après c'est tout un rythme de vie qu'on suit au quotidien, des activités, des sorties, et en même temps un peu de discipline. On se lève tôt, on est en réglé sur chaque heure de repas, etc. Mais c'est très bien, enfin, ça me convient super. On a plein d'activités et tout.
Ah, donc c'est un rythme quand même qui est soutenu.
Oui, c'est ça. C'est le réveil à 6h, le dernier repas du soir est à 18h40. C'est des horaires assez tôt, mais une fois qu'on est habitué, en fait, c'est un rythme qui nous convient super bien. Parce que du coup, à 22h, on est déjà fatigué, on dort et on a nos 7 heures de sommeil la nuit pour commencer la journée de demain.
Et comment ça se passe la formation ? Vous avez des cours ? Comment tu te spécialises en fait ?
Lorsqu'on arrive, ils nous font passer des tests, 2 tests français et mathématiques. Lorsqu'on passe les tests, ils évaluent juste notre niveau, donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Une fois que notre niveau est évalué et qu'on leur annonce notre projet professionnel, si on en a un, et ils nous redirigent. Donc moi par exemple, ça a été marketing digital, donc en cours d'enseignement général, ils m'apprennent un peu à faire de la vente. Après, on fait un petit peu de sport, on fait un peu de cours de citoyenneté pour apprendre aussi la vie. Chacun en fait a son petit emploi du temps personnel, individuel, qui suit justement le parcours projet professionnel des autres élèves.
Je m'appelle Wesley Montenegro, j'ai 22 ans, je suis à l'EPI depuis le 30 septembre.
Et donc comment ça se passe à l'EPI ? Comment la formation se passe ?
Ils nous accompagnent par rapport à nos démarches, notre projet professionnel. Et il y a plusieurs situations. Par exemple, s'il y a des personnes qui ont besoin d'être logées et de trouver un travail, ils nous accompagnent aussi. Et pour les personnes qui sont en recherche d'alternance ou de formation ou d'un travail, ils accompagnent aussi bien, ils ont plusieurs partenaires.
Et toi, tu es à la recherche de quoi ? C'est quoi ton projet professionnel ?
Mon projet professionnel, c'était chauffagiste et grutier. Donc j'ai avancé sur chauffagiste, j'ai réussi à faire mes stages. L'année prochaine, je commence si tout va bien. J'ai réussi à trouver une boîte. Et puis, deuxième projet, c'était grutier, qui commence au mois de mars l'année prochaine. Et on verra ce que ça donne. Hein.
Bravo déjà, félicitations. Et du coup, comment ça se passe pour trouver ta formation, trouver les stages? Est-ce que l'EPID vous accompagne? Comment ça fonctionne?
Ils nous proposent des partenariats, on fait des forums et on fait des sorties extérieures aussi. Donc ça nous permet aussi de connaître des boîtes qu'on ne connaissait pas. Et du coup, bah, c'est grâce à ça que ça nous permet d'accéder à nos fins.
Et toi, comment tu le ressens, ton parcours à l'EPID? T'es content de faire ça?
Super bien, hein. Je vous mens pas. J'ai fait mes stages, ils m'ont accompagné, j'ai pas du tout galéré. Ils donnent tout en fait dans les mains. On a juste à y aller, c'est que du tout droit. Pôle emploi aussi nous accompagne. Ça veut dire qu'ils sont directement aussi partenaires. Ils sont en contact. Ça veut dire qu'on galère pas en vrai.
Et donc t'es à l'EPID depuis septembre, c'est ça? Est-ce que t'as remarqué une évolution jusqu'à aujourd'hui?
Bien sûr, moi je suis parti là-bas, j'avais sans rien, j'avais pas de projet professionnel. J'ai été comme ça. Je voulais voir comment ça allait se passer. Et du coup, j'ai réussi à passer le code. Là, je suis en train de voir parce qu'il y a un problème des NPH, mais ça n'a rien à voir. Après, il y a eu le projet chauffagiste, comme je vous ai dit. J'ai commencé à faire mon stage là-dedans. Ça s'est bien passé. Et là, je compte sortir en mon positif le mois prochain. On a passé des diplômes comme le PSC1, premier secours, PIX. Et en fait, il y a plein de choses qui nous font passer certifiés auprès de l'État. C'est reconnu, donc c'est plutôt bon pour nous.
Et c'est que du positif pour les jeunes qui sont là-bas.
Que du positif.
Nous avons échangé avec Madame Gignès, qui travaille à la mission locale de la Vallée de l'Oise. Métier en tension dans la région, mission et formation en expansion. Elle nous en dit plus sur les enjeux de l'emploi dans les Hauts-de-France.
Donc, je suis Madame Gignès, je suis référente formation pour la mission locale de la Vallée de l'Oise.
Et donc, quels sont les défis en termes d'emploi, de formation aujourd'hui?
Les défis, ça va être l'employabilité, le fait que les gens soient formés, puissent avoir des diplômes et qu'on puisse être en corrélation entre le marché du travail actuellement, les métiers en tension, et pouvoir professionnaliser les bénéficiaires. En tout cas, nous, pour notre part, ça va être les jeunes.
Et quels sont les métiers en tension dans les Hauts-de-France actuellement?
Alors actuellement sur notre territoire, on est sur l'industrie et le bâtiment.
Pourquoi à votre avis?
Ça c'est la question. En tout cas, nous sur notre mission locale, on constate que nos jeunes qui arrivent n'ont pas été informés justement malheureusement lors de leur cursus scolaire des métiers de l'industrie et des métiers du bâtiment. On va souvent les diriger vers les mêmes voies, le commerce, l'administration ou le médical, mais on va oublier un petit peu les voies comme le bâtiment et l'industrie.
Dans la région, quels sont les métiers les plus en expansion qui plaisent, on va dire, de plus en plus?
Dans notre territoire, la forte demande aujourd'hui, alors outre l'industrie et le bâtiment, on va voir la restauration. On va aussi avoir, et on le voit au niveau de l'actualité, une pénurie dans le médical. Et après, sur le bâtiment, les métiers en tension, la couverture, la taille de pierre. Et sur l'industrie, ça va être tout ce qui, avec les entreprises qui ouvrent, les grosses entreprises, on va être sur de la logistique et le transport.
Et comment vous faites-vous pour conseiller les jeunes qui viennent vous voir?
Alors les jeunes qui s'inscrivent chez nous vont commencer un parcours de découverte des métiers justement, et ça va s'articuler sur des visites en entreprise, des visites de centres de formation, ça va s'articuler sur des ateliers casque VR, ça va s'articuler sur des enquêtes métiers, des PMSMP, donc des stages. Voilà, on va essayer avec nos jeunes de leur faire découvrir justement tous les métiers en tension qui existent et que eux ne connaissent pas.
Et est-ce que vous voyez une évolution des demandes de formation dans les Hauts-de-France?
Alors, au niveau de la formation sur les Hauts-de-France, donc nous, on travaille avec le PRF, donc le programme régional de formation, donc les formations qui sont financées par la région Hauts-de-France. L'évolution, depuis 2-3 ans, on va axer vraiment la formation qualifiante, perfectionnante, sur, encore une fois, le bâtiment, l'industrie, la restauration. Sur les soins à la personne, l'accompagnement des personnes.
Les entreprises de BTP peinent à recruter. Laurine Mascar, chargée de recrutement au GEC BTP, nous explique.
Alors, je suis Laurine Mascar, chargée de développement et recrutement au GEC BTP.
Et donc j'ai discuté tout à l'heure avec des personnes de la mission locale qui m'ont dit que le BTP, le bâtiment, c'était un secteur qui était en tension dans la région. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'en dire plus ?
C'est vrai qu'il y a des entreprises donc en baisse d'activité, et au niveau des candidats c'est pareil, on a du mal à recruter, donc voilà.
À votre avis, pourquoi c'est un métier qui intéresse de moins en moins ?
Alors c'est vrai que les métiers du bâtiment sont méconnus par les jeunes ou moins jeunes. Donc c'est pour ça qu'on est là au job dating, au forum, pour présenter les métiers du bâtiment.
Et donc quels sont les plus grands défis de votre entreprise, dans le métier du BTP en général pour vous ?
Alors le défi, c'est de trouver les candidats et trouver les entreprises et les mettre en relation, les candidats et les entreprises, sachant que les entreprises ont des critères de recrutement et les jeunes ou moins jeunes ont aussi leurs critères. Donc voilà, il faut que les deux aillent ensemble.
Justement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire les critères de recrutement des entreprises de BTP ?
Alors on peut avoir des entreprises du bâtiment qui recrutent des personnes vraiment avec le savoir-être. Tant que les personnes sont motivées et qui ont un savoir-être, donc ça peut le faire. Par contre, on a aussi des entreprises qui recherchent des personnes déjà qualifiées. Donc là, c'est un peu plus compliqué.
Le forum emploi et formation de Marny-les-Compiègne a permis de faire le point sur les besoins des entreprises et les attentes des jeunes dans les Hauts-de-France. Une initiative qui favorise les échanges entre acteurs de l'emploi et candidats. Forum emploi et formation, des rencontres pour préparer l'avenir, un reportage de Juliette Carlier pour Radio Graphite.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Radio Campus est sur le 106,6 MHz de la bande FM pour Lille et sa métropole.
Mais aussi sur le DAB+.
Et partout dans le monde sur campuslille.com en direct avec une archive
de 8 semaines pour toutes les émissions.
Nous qui ne sommes que des locataires depuis la nuit des temps, prenons bien garde dès à présent de ne pas nous croire propriétaires. Si nos enfants et nos petits-enfants pouvaient garder les yeux ouverts, laissons-leur au moins un océan, trois arbres et deux rivières. Pauvre planète, ça sent la fin des haricots, beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. Pauvre planète, ça sent la fin des haricots. Sable dans la tête. Quand on aura déménagé sous terre, à l'appel du bon Dieu, nos enfants risquent de payer cher pour l'état des lieux. J'espère au moins que nos ancêtres ont nettoyé le paradis. Si par malheur c'est en enfer que je suis conduit. Pauvre planète, ça sent la fin des haricots. Beaucoup trop de bourricots,
avec du sable dans la tête.
Avec du sable dans la tête. Pauvre planète, ça sent la fin des haricots. Beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. Pour nettoyer la merde qu'on a dans les yeux, quand même les quatre mousquetaires seront plus que deux. Prenons bien garde qu'à ne rien faire, finissions par devenir comme eux. Éteindrons-nous la poudrière, y mettrons-nous le feu. Pauvre planète, ça sent la fin. Beaucoup trop de bourricots, avec du sable dans la tête. Pauvre planète, ça sent la fin des haricots. Beaucoup trop de bourricots,
avec du sable dans la tête. avec du sable dans la tête.
Pauvre planète,
ça sent la fin des haricots. Beaucoup trop de bourricots avec du sable dans la tête.
On est à la piscine Élie Desbains à Arras. C'est là où se déroulent les entraînements du RCA Waterpolo. Depuis septembre dernier, ce club accueille de jeunes poloistes tout droit venus de Moldavie, petit pays situé entre la Roumanie et l'Ukraine. Gros plan sur cet échange sportif et humain.
Bonjour, je m'appelle Anatoly, aussi j'ai 15 ans. Je joue pour l'équipe de Waterpolo d'Arras. J'étudie au lycée Guy Mollet et je suis en France depuis septembre.
Bonjour, je m'appelle Roman, j'ai 15 ans. Je suis de nationalité moldave. Je joue à Racing Club Arras. J'étude à Guy Mollet et ça fait 8 mois depuis que je suis en France.
Je m'appelle Anatoly, j'ai aussi 15 ans. Je suis moldave. Je joue à l'équipe de club Arras et je te dis aussi au Guy Mollet.
Qu'est-ce qui peut m'expliquer un petit peu pourquoi en fait vous êtes venu ici à Arras et pourquoi vous n'êtes pas resté dans votre club en Moldavie? Qu'est-ce que ça vous apporte ici de venir ici à Arras?
Parce que en Moldavie il n'y a pas beaucoup de clubs de waterpolo, il n'y a que deux clubs dans tout le pays et ici il y a plus d'expérience et plus d'opportunités.
Du coup, ça veut dire pour vous qu'il y a quand même des jeunes, vous avez fait un long voyage et puis vous êtes très loin de votre famille. Alors comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, est-ce que c'est difficile, est-ce que ça a été facile ou pas de vous adapter ici à la vie arageoise?
En fait, pour nous, au début, c'était difficile. C'était vraiment difficile parce qu'on ne parlait pas la langue française. Mais aussi, à côté de nous, sont beaucoup de gens qui nous aident toujours et ça fait pour nous plus simple.
Au lycée, au début de l'année, était aussi très, très, très difficile pour nous pour s'adapter avec des nouveaux collègues et tout ça, nouvelles professeurs. Et maintenant, c'est plus simple pour nous.
Il paraît que vous êtes fort en maths. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on m'a menti?
Oui, c'est vrai. Parce qu'en Moldavie, on a un niveau plus avancé en maths. Et ici, on étudie des choses qu'on a déjà faites en Moldavie.
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez complètement découvertes? J'imagine, forcément, on découvre beaucoup de choses quand on change de pays. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a étonné à Arras, en France, de manière générale? Ça peut être la cuisine ou autre chose?
En fait, j'ai observé que l'école est plus longtemps qu'en Moldavie, parce qu'en Moldavie, on fait des cours à 8h jusqu'à 14h. Bah, ici, on peut avoir des cours jusqu'à 17h. Aussi, en France, on a le pause est plus grand qu'en Moldavie. Si j'ai observé que dans les familles où on habite, la cuisine est trop différente. Là, au début, c'était un peu bizarre, mais maintenant, c'est bien.
Il y a un plat que tu aimes bien ici, manger en France?
Oui, j'aime bien manger de cordon bleu et aussi le raclette et couscous.
Alors, peut-être un mot de sport quand même, parce que vous êtes là aussi pour apprendre, vous entraîner. Alors comment ça se passe ça? Parce que il me semble aussi qu'il y a des entraînements qui sont très très tôt le matin. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre semaine ou votre journée?
Donc toute la semaine on a des entraînements. On a je crois que 6 entraînements. Ah, 7 entraînements, oui. Et le week-end on joue peut-être on joue minimum un match. On a deux entraînements le matin et après 5 entraînements le soir. Le matin, on a des entraînements à 6h15 jusqu'à 7h15.
6h15 du matin?
Oui, 6h15 du matin.
Et après, vous enchaînez sur le lycée?
Oui, on a, l'école elle commence à 9h ou à 8h.
Et du coup, vos objectifs, c'est quoi? C'est de devenir professionnel de waterpolo? Enfin, c'est quoi un peu vos objectifs et vos rêves?
C'est de devenir professionnel au waterpolo et continuer notre carrière.
Bah, moi, je m'appelle Gabin, j'ai 15 ans et je fais du waterpolo RC Arras depuis 6 ans, bientôt.
Alors comment t'as vu toi en tant que joueur l'arrivée en fait des autres joueurs moldaves?
Bah pour nous au début c'est pas qu'on appréhendait mais on avait un peu peur de perdre notre place. Mais au final non parce qu'ils sont venus et ça nous a beaucoup plus aidé dans l'équipe avec les autres. Ça nous a rehaussé le niveau et mis à hauteur des autres équipes et on progresse. J'ai l'impression de plus progresser avec eux dans l'équipe et de jouer avec eux tous les jours que jouer avec les gens qu'on connaissait depuis le début du waterpolo. Ça ne crée pas de concurrence parce que au contraire, nous, ils nous apportent plein de choses. Ils nous aident plus à jouer en collectif que individuellement chacun.
Et humainement, alors, qu'est-ce que tu en penses alors d'eux?
Bah, humainement, comme on est tous ensemble, toujours ensemble, c'est des super rencontres. Ils sont super gentils, c'est trop bien.
Et toi, tu suis le même rythme des 7 entraînements par semaine que les autres ou comment ça se passe?
Bah oui, ça va.
T'as raté un ou deux entraînements, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
On évoque toujours cet échange autour du waterpolo à Arras entre la France et la Moldavie.
Je m'appelle Sophie Vanouk, je suis une maman de poloiste depuis longtemps, même ancienne poloiste. Donc, voilà.
Une passion de famille alors?
Oui, exactement, depuis des années, plusieurs générations.
Comment s'est arrivée cette idée d'accueillir des sportifs moldaves ici au RC Arras?
C'est plus Dimitri, un autre papa de l'équipe qui a commencé à évoquer l'idée et le club qui a suivi. Et du coup, Benoît, le président du club, cherchait des familles d'accueil et on s'est proposé spontanément pour accueillir un enfant.
C'est un fort engagement parce que vous accueillez un lycéen pendant quasiment une année, c'est ça?
Sans vraiment donner de durée, parce que ça peut durer plus longtemps. La preuve, c'est que pour l'instant, peut-être qu'on va partir sur plusieurs années. Enfin, à voir, on ne sait pas. Oui, c'est un engagement. Après, moi, j'ai aussi 3 autres enfants donc, qui sont aussi dans la même tranche d'âge. Donc, en fait, c'est logique quoi, pour nous. C'est devenu normal.
Anatoly donc vit chez vous, il dort chez vous, il mange avec vous.
Il a sa chambre, il a ses habitudes, il a ses repères. Comme mes enfants, il fait partie de la famille.
Il est dans la même équipe qu'un de vos enfants aussi alors?
Deux de mes enfants. En N2, il est avec Nicolas, mon fils aîné. Et en U16, il est avec Lucas, mon fils du milieu.
Comment vous vivez un peu cette expérience, vous?
C'est une superbe expérience. Culturellement, c'est extraordinaire. On apprend beaucoup de lui, de sa famille. Donc c'est un échange, moi je trouve très intéressant. Et en termes sportifs, c'est une très belle aventure. Humainement, c'est magnifique.
On peut imaginer que ça a été quand même assez difficile pour un ado de 15 ans de vivre comme ça, je sais pas, 1500, 2000 km de chez lui. Comment vous voyez les choses? Comment vous avez vécu ça?
Moi, si je me mettais à sa place, si en tant que maman ou si mon fils doit partir à l'autre bout d'un autre pays, ça me paraît très compliqué pour moi de laisser partir mon enfant. Donc j'imagine que pour ses parents, ça a dû être difficile. Et c'est pour ça que moi, je me suis mise à leur place un petit peu. J'ai essayé en tout cas en me disant si mon enfant partait comme ça, j'aimerais qu'il soit dans une famille qui l'accueille vraiment avec le cœur. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Pour le mieux pour tout le monde en fait.
Donc moi je m'appelle Arnaud, je suis Arnaud Vanouk, je suis vice-président du RC Arras Waterpolo. Le club est à l'origine effectivement d'un échange avec la Moldavie, plus un accueil qu'un échange, grâce à une famille moldave qui était déjà dans le club depuis quelques années. Donc on avait trois jeunes joueurs qui sont arrivés en France où il a fallu trouver effectivement des familles d'accueil, réussir à s'arranger avec le club d'origine pour les intégrer, s'arranger avec la ville et la CUA et le lycée pour qu'ils rentrent en seconde en France, donc tout ce qui est les papiers, un peu tout le fonctionnement, la sécurité sociale, toutes les demandes, etc.
Qu'est-ce que ça leur apporte, et notamment aussi au club, aux poloïstes là-bas, de cet échange?
Au club, ça apporte énormément. C'est très enrichissant, de toute façon, d'accueillir comme ça des joueurs qui viennent d'autres pays. Alors, il y avait effectivement de l'appréhension des autres joueurs, justement, parce qu'ils avaient peur des joueurs un peu plus d'un niveau au-dessus qui auraient pris leur place ou autre. Et au final, on a très bien constaté, on les avait un peu informés là-dessus, c'est qu'ils allaient apporter quelque chose pour eux au club. Ils n'étaient pas là pour prendre leur place, et que chacun allait se tirer vers le haut. Et c'est ce qui a fait que, effectivement, ça a boosté l'équipe, ça a boosté le club. Et même que ce soit en U16 Excellence, c'est la première année qu'on engage une équipe U16 Excellence. Et en équipe nationale 2, où on a eu de ce fait trois nouveaux joueurs dans l'équipe, où on voit que la progression de l'équipe est assez importante. Après, pour la Moldavie, je pense que ça leur fait trois joueurs en moins. Comme ils expliquaient, ils ont deux équipes en Moldavie, ils ont une seule piscine. C'est assez contraignant pour eux. Sur le développement et sur l'évolution, ils veulent venir joueurs professionnels, donc arrivés à un certain âge, en général ils partent dans d'autres pays. Il y en a qui étaient partis en Italie, on est aux États-Unis, et donc là en France et à Arras, c'est une première. Après l'échange avec la Fédération de Moldavie, ça s'est quand même bien passé, on a réussi à bien discuter, et ils continuent à avoir, quand ils retournent en vacances chez eux en Moldavie, ils continuent à jouer dans l'équipe là-bas. Ils ont même été sélectionnés en catégorie U16 et U18 pour faire les championnats d'Europe cet été en Moldavie.
Donc ici en France, ils jouent dans leur catégorie, mais aussi avec les adultes, hein, c'est ça?
Avec l'équipe nationale 2, oui. En France, ils jouent en catégorie U16 et en catégorie nationale 2. Nationale 2, c'est les seniors. On a plusieurs catégories. On a la nationale 3 au départ, après nationale 2, nationale 1, et après l'élite. Et pour l'instant, on évolue en nationale 2, donc ils jouent effectivement en nationale 2.
Pour vous, le club, c'est aussi potentiellement des meilleurs résultats, c'est important ça pour vous ou quoi?
Alors, en tout cas, oui, pour le club, c'est important. On a pour objectif de toujours monter, de toute façon. Hein, c'est en tout cas une visée qui est faite pour le club. Donc là, on était déjà en National 2 avant qu'ils arrivent. Hein, là-dessus, on avait déjà les joueurs, les joueurs qui évoluaient dans cette catégorie et qui évoluent correctement. Le fait d'avoir ramené trois joueurs en plus, ça rapporte un souffle et ça rapporte, comme nous, on le dit, du banc, c'est-à-dire des remplaçants pour l'entraîneur pour pouvoir jouer. On le voit depuis cette année, quand il tourne la tête sur le banc, il a le sourire parce qu'il a des joueurs et il ne sait plus qui choisir. Que quand on a un peu moins de joueurs, c'est un peu plus difficile à savoir qui mettre dans l'eau. Donc on a pour objectif de monter. Donc après, l'U16 Excellence, c'est une première année et pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal. L'année prochaine, ils ne sont plus en U16, ils seront en catégorie U18. Donc on va voir au niveau de l'inscription en équipe en U18. Et sinon, ils continueront d'évoluer en National 2 et pourquoi pas monter en National 1.
On écoutait Arnaud, Sophie, les jeunes joueurs du RCA Waterpolo, le Racing Club d'Arras, à propos de cet échange entre la France et la Moldavie. Ce sujet a été réalisé par Nico de Radio PFM.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Retrouvez toute la musique que j'aime, un projet artistique de territoire sur Radio Campus. Une série d'émissions réalisées en direct et en public à Villeneuve-d'Ascq. Toute la musique que j'aime est une aventure qui donne la voix aux habitantes et aux habitants d'un quartier à travers 5 émissions diffusées aux 4 coins de la ville. Rejoignez-nous pour la dernière émission le 21 juin à partir de 17h à la maison de quartier Pasteur. Au programme balade sonore, repas convivial, performances musicales et rencontres inédites. Des émissions proposées par l'Amicale, coopérative de projets vivants, en partenariat avec la Ferme d'en haut et dans le cadre d'un contrat ville avec la ville de Villeneuve-d'Ascq.
Yeah. money, no considerate cheating now. Cheating now.
Bien sûr qu'on n'est plus des Gaulois, le coq se fait rare le matin, la gouaille du titi parisien se retrouve dans des archivinas, le pente de livre a du chagrin, d'avoir perdu le béret de papa, d'avoir froid au mi-champ chemin, de ne plus être au chaud sous nos bras. Bien sûr qu'on n'est plus des Gaulois, qui croient aux druides ou aux potions, le viandox des jours de grand froid est un souvenir de tonton Raymond. Zazie dans le métropolitain et le poinçonneur des lilas sont des statues de Syrah Grévin posées à côté de Lohana. Pourtant, au mois de novembre, quand nous revient le Beaujolais, la France redevient une ivrogne qui trouve sympa José Beauvais, qui surprend à être nostalgique du Montmartre d'Amélie Poulain, du laitier du petit noir le matin, des soirs de meeting politique où on critiquait les ricains quand De Gaulle leur faisait la nique. Bien sûr qu'on est des Gaulois, causant d'Arletty à Gabin, les rues de Paname ont changé de voie, on se demande est-ce que ça capte bien, 22 Asnières ça décroche plus, il doit surfer sur la vie point rien, les balles musettes se déroulent chez soi, dans les prime time de TF1. Pourtant au 14 juillet, on va tous voir le feu d'artifice. On se dépêche d'aller retrouver l'angle de rue le plus propice, avoir les yeux illuminés sous la belle bleue du bouquet final. Et puis on va aller danser, faire tomber la chemise au bal. On s'achève sur YMCA, c'est Ricard mais ça donne pas mal. Laisse les femmes seules au fourneau, pendant qu'on se barre au bar tabac, se boire une suze avec Jeannot. Les bobos ont changé tout ça, le camembert s'est mis à l'eau, Jeannot vient manger une pizza, Chouchou s'est cassé au resto. Pourtant, au mois de novembre, quand nous revient le Beaujolais, on se rappelle qu'on est des ivrognes, on trouve sympa José Beauvais. On hurle des chansons paillardes jusqu'à 4h du matin. Les chevaliers de la table ronde qui disent « Ah, les Américains !» Avec leur country à deux balles, ils peuvent retourner se rhabiller. On se dit qu'on est bien des Gaulois et fiers de l'être jusqu'à demain. On hurle des chansons paillardes jusqu'à 4h du matin. Les chevaliers de la table ronde qui disent « Ah, les Américains !» Avec leur Schwarzy gouverneur, ils peuvent retourner se rhabiller. On se dit qu'on
qu'on est bien des Gaulois et fiers de l'être jusqu'à demain. Sans blague.
Les 4 jours de Dunkerque ont été l'occasion cette année d'une traversée de l'ensemble des départements des Hauts-de-France, avec une grande nouveauté pour cette édition 2025, l'introduction d'une course inaugurale, la Classique. Cette épreuve s'est déroulée mardi 13 mai sur près de 200 km entre Dunkerque et Lens. L'occasion de recueillir après l'épreuve les précisions et les impressions du président de l'organisation à la Maison syndicale des mineurs de Lens sur cette course mythique des Hauts-de-France.
Éric Marchilly, président des 4 jours de Dunkerque.
Et donc, c'est une grosse organisation. Ça reste encore une association ?
Ah oui, complètement. On est associatif. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun bénévole chez nous qui est payé. Tout le monde est bénévole, sauf deux assistantes. Mais sinon, on est 140 bénévoles à travailler toute l'année.
Donc, combien d'étapes dans ce tour de 2025 ?
Alors, il y a la première, donc aujourd'hui, qui est une étape en tant que telle. Donc, on a un vainqueur et tout est terminé pour aujourd'hui. Et demain, on commence pour 5 étapes, jusque dimanche.
Donc, l'idée, c'est de traverser l'ensemble des Hauts-de-France en termes de départements ?
Absolument, absolument. On va faire tous les départements. Il n'y a que le département de l'Aisne où on n'aura pas de départ ou d'arrivée, d'étape, mais on va traverser tout le département. Et donc, on va faire du kilomètre. On va faire plus de 1000 kilomètres sur ces 6 jours. Donc, c'est costaud, mais on le fait. Et on s'appelle 4 jours de Dunkerque Grand Prix des Hauts-de-France. Donc oui, on fait tout ça et on est très content de le faire.
Donc Lens est un bon point de départ pour lancer cet ensemble de personnes et aussi d'accompagnants.
Je ne dirais pas que Lens est un bon point de départ parce qu'aujourd'hui, pour la première fois de notre histoire, on a créé une classique. Et Lens va rester dans la mémoire des 4 jours de Dunkerque comme étant la première classique avec une arrivée et un départ de Dunkerque. Donc là, on est sur quelque chose qui est très carré. Et après, demain, à Sainte-Catherine-les-Arras, on démarrera et on continuera jusqu'au retour à Dunkerque dimanche prochain.
La population était au rendez-vous, le public ici à Lens ?
Oui, mais sur toute la route. Ce qui est très très plaisant, c'est quand vous, sur tous les villages, les écoles sont dehors, les écoles nous attendent, les gamins découvrent la course, découvrent la caravane publicitaire. C'est très amusant parce que j'ai eu une institutrice au téléphone qui disait à ses enfants, les coureurs arrivent. Puis tout d'un coup, elle me dit, non, ils ne savent pas ce que c'est qu'un coureur. Les cyclistes arrivent. Donc ça veut dire que, par quelque part, c'est aussi un peu un acte pédagogique. Je connais des écoles où ça fait déjà quelques mois, ils préparaient l'avenue des 4 jours de Dunkerque en expliquant ce que c'était que le vélo, comment on le faisait, qui intervenait, comment on calculait une moyenne. Donc ça va beaucoup plus loin que le monde du sport. Une course comme la nôtre, c'est quelque chose de sociétal et ça intéresse tout le monde, même les enfants. Moi, si vous voulez, je suis né l'année de création des 4 jours de Dunkerque et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que le photographe officiel des 4 jours de Dunkerque était mon grand-père maternel et qu'à l'époque, dans la musette des coureurs, on y mettait du poulet et que la personne qui fournissait le poulet, c'était mon grand-père paternel. Donc je ne pouvais, suite à tout ça, que prendre la direction un jour des 4 jours de Dunkerque.
Donc dans la région, il y a de grandes courses cyclistes hein, et puis il y a évidemment le Tour de France. Comment ça se croise tout ça ? Est-ce qu'il y a des accords qui sont faits entre les différentes structures ?
Alors avec le Tour de France, il n'y a pas d'accord. Moi j'ai travaillé dans ma vie professionnelle pendant 14 ans, j'ai travaillé avec ASO, donc, qui organise le Tour de France. Je connais très très bien Christian Prudhomme, le président. Il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire que chacun fait sa course, on a un calendrier et on fait en fonction de ce calendrier. Donc là, aujourd'hui, nous, 4 jours de Dunkerque, on est la plus grosse course à étapes sur les Hauts-de-France. Donc on est parti du point de vue que l'on pouvait aider des courses moins importantes que la nôtre. Je pense à Fourmies, je pense à Isberg, à Denain. Et aujourd'hui, on est plus dans la grande famille du vélo, avec tous les organisateurs pour dire d'avancer dans le même sens et d'aider, de s'aider les uns les autres.
J'imagine que quand on est coureur, on ne voit pas beaucoup le paysage. Enfin, je sais pas, j'imagine.
On ne voit pas le paysage. Moi, j'étais sur le Tour de France, j'ai fait 14 Tours de France, mais pas en tant que coureur, en tant que patron, du maillot à poids. Je peux vous dire que, un, je ne voyais jamais le paysage. Les gens me disaient, tu la connais toute la France. Oui, ma voiture connaissait toute la France, mais moi pas. Et j'étais absolument incapable. Ça allait beaucoup plus loin. C'est-à-dire que je retrouvais le coureur qui portait le maillot à poids à l'époque sur le podium. Et c'est mon fils, le soir, au téléphone, qui me disait, ah, t'as vu un tel... Je savais plus qui était le coureur que j'avais vu, à qui j'ai serré la main, parce que je gérais la manifestation. Je gérais mes invités sur l'épreuve. Mais j'étais absolument incapable. Vous m'auriez dit, t'as vu, il y avait le Mont Chauve ou le Mont Noir. J'étais incapable de vous dire, oui, il y avait ça. Parce que vous êtes dans votre trip professionnel, vous y restez, vous ne voyez rien.
Par contre, j'imagine qu'ils ressentent beaucoup les dénivelés. Il y en a beaucoup dans votre parcours ?
Non, aujourd'hui, il y en avait un petit peu. Demain, il y en a un petit peu également. On a une étape vraiment où il y a du dénivelé, qui est le samedi, l'étape de Cassel, où là, on va avoir plus de 2200 mètres de dénivelé. Donc là, ça commence à causer un peu. Mais on n'est pas un pays de montagne. Il ne faut pas vouloir être un pays de montagne. On a un petit truc chez nous qui s'appelle les pavés. Et je peux vous dire que l'étape de vendredi, qui fera Valenciennes fin mars, ça va être une étape qui va être importante et qui peut être plus dure qu'une étape de montagne.
Voilà, donc bienvenue à Lens et bonne continuation.
Merci à vous. Au plaisir.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.
L'agglomération de Lens-Liévin a bien sûr été mise à contribution pour le passage et l'accompagnement de cette course. Quelques mots du vice-président de la communauté de communes chargée des sports.
Donc Laurent Poisson, vice-président au rayonnement sportif sur l'agglomération de Lens-Liévin.
Donc cette agglomération est très riche en événements sportifs, surtout en ce moment.
Surtout en ce moment et surtout cette année, oui, parce que c'est vrai qu'on s'est lancé un petit défi, l'agglo terre de vélo, et on lance une application aujourd'hui, justement, ça roule, pour justement que les personnes puissent découvrir les activités qu'il va y avoir justement cette année, hein, puisqu'on a lancé avec le championnat du monde de cyclocross, on a les 4 jours de Dunkerque derrière, on a le Tour de France, on a le run and bike de la GLO, mais on a aussi d'autres activités qui vont être lancées. On a une course sur Vingles. On a différentes choses, hein, qui sont lancées cette année. On a l'inauguration du véloroute, mais sur la base du 11-19 aussi, qui va avoir lieu début juillet. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé le défi de se dire, tiens, on va inaugurer une application aujourd'hui, en lançant une application qui va à terme devenir une application avec des notifications pour la population de notre agglomération, qui recevront des notifications justement pour avoir les différentes choses qui seront programmées dans l'agglomération au niveau sportif, mais pas que.
Alors la pratique du vélo est très large, hein. On peut faire aussi de la randonnée tranquille pour visiter les paysages de l'Artois.
Donc oui, effectivement, on a aussi la chaîne des parcs, hein, sur notre agglomération, et donc cet été la population a la possibilité justement de rouler sur la chaîne des parcs et via l'application qui est lancée aujourd'hui, de gagner des points pour avoir des lots en participant aux jeux concours.
Les 4 jours de Dunkerque, c'est tous les ans à Lens maintenant ?
Non, c'est pas tous les ans à Lens. On a lancé un partenariat il y a déjà 3 ans en arrière. Moi, en tant que maire de Mazingarbe, j'avais lancé le dispositif sur l'agglomération et on avait accueilli les 4 jours de Dunkerque sur un village départ. Et ensuite, j'ai proposé à l'agglomération d'accueillir les 4 jours de Dunkerque sur le maximum de villes tous les ans. Et là, on vient de renouer un partenariat sur les 5 prochaines années.
Avec donc, une bonne quinzaine de villes croisées ici.
Traversées. Alors aujourd'hui, 18 villes qui ont été traversées sur l'agglomération par les 4 jours. Et c'est une véritable bonheur, puisque la plupart des villes de l'agglo, enfin un peu plus de la moitié des villes ont été traversées, et on a vu énormément de monde sur les routes, et notamment des enfants, les écoles ont joué le jeu et les enfants étaient sur le bord des routes.
Alors c'est vrai que le temps, il était bien parti.
Alors on a eu un beau temps quasiment sur toute la route, un peu sur les collines de l'Artois où on a eu quelques gouttes. Et ici, à l'arrivée, un beau soleil. Et au moment de remettre les bouquets aux gagnants et aux vainqueurs, une pluie et qui a gâché un peu le spectacle. Mais voilà, le plus gros était fait.
C'est une grosse organisation pour l'agglomération ?
Alors c'est une organisation, oui, il y a une grosse organisation puisqu'il faut y trouver des signaleurs, il faut y mettre du barrage. Donc toutes les villes ont été sollicitées au niveau de leur service technique, mais pas que, il y a les services administratifs puisqu'il faut prendre des arrêtés. Mais le plus gros est fait par l'organisation des 4 jours, mais pour rappel, c'est que des bénévoles.
Donc à la fin de cette étape aujourd'hui, heureux ?
Oui, heureux. Heureux que ça s'est bien déroulé. En plus, une nouvelle formule avec cette première journée sur les 4 jours pour démarrer vraiment la première étape à partir de demain.
Quand le soleil à l'horizon profile sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette.
Voilà donc pour cette classique lensoise des 4 jours de Dunkerque qui mettait en appétit coureurs et spectateurs pour les autres étapes qui se sont déroulées du 14 mai au 18 mai. Jour du retour à Dunkerque. Rendez-vous à l'an prochain. C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus Lille.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Hello, my name is Florrie. When I am in Lille, I listen to Radio Campus Lille on 106.6 FM. When I am in Teddington, I listen to Radio Campus Lille on www.campuslille.com.
C'est celle qui passe le mur, qui a le regard étroit, le bonheur en bas de chez soi. Passe montagne dessus, l'accord parental sous le bras. Le visage qui brille, faut que ça se voit. Le visage qui brille, faut que ça se voit. C'est celle qui veut plus jouer à la marelle, à l'oreiller. Prends ton bain en équation, 21h c'est fiction. Fini tes devoirs, tes fonctions, faut que tu brilles et que ça se voit. Faut que tu brilles et que ça se voit. Si je te l'ai pas vraiment dit, alors c'est pas bien grave tout ça. Car tu sais que les mots gentils, ça aussi faut que ça se voit. Ça aussi faut que ça se voit. C'est celle qui passe le mur, qui va rejoindre son garçon. Elle a pas l'air bien sûr de pouvoir tenir ses exactions. Cache tes yeux et tes tons. Ça par contre, faut pas que ça se voit. Ça par contre, faut pas que ça se voit. Si je te l'ai pas vraiment dit, alors c'est pas bien grave tout ça. Car tu sais que t'es un gentil, ça aussi faut que ça se voit. Ça aussi faut que ça se voit. C'est celle de la chanson. Car on n'est pas un tube de toute façon. Savoir qu'on n'a pas, tant pis pour nous, mais le principal, c'est que ça dure et que ça se voit.
C'est que ça dure et que ça se voit.
C'est que ça dure et que ça se voit.
C'est que ça dure et que ça se voit.
C'est que ça dure et que ça se voit.
C'est que ça dure et que ça se voit.
C'est que ça dure et que ça se voit.
C'est que ça dure et que ça se voit.
C'est que ça dure et que ça se voit.
Si je te l'ai pas vraiment dit, alors c'est pas bien grave tout ça. Nous je dis tant pis, faut que ça dure et que ça se voit.
Si je te l'ai pas vraiment dit, alors
faut que ça dure et que ça se voit.
Nous je dis tant pis,
faut que ça dure et que ça se voit. Faut que ça dure et que ça se voit. Faut que ça dure et que ça se voit. Faut que ça dure et que ça se voit.
know it ain't easy for these thoughts to leave me. There are no words to describe it in French or in English. 'Cause diamonds they fade, flowers they bloom, and I'm telling you that these feelings won't go away. They even knocking me sideways, they even knocking me out there. Whenever you come around me, these feelings won't go away. Keep thinking in a moment that time will take them away, but these feelings won't go away. These feelings won't go away. But these thoughts here to leave me, there are no words to describe it in France or in English. 'Cause diamonds they fade,
diamonds they fade,
flowers they bloom,
flowers they bloom.
And I'm telling you these feelings won't go. They've been knocking me sideways, they've been knocking me out there. Ever you come around me, these feelings won't go away. They've been knocking me sideways. I keep thinking in a moment that time will take them away. These feelings won't go away.